Levant les yeux vers la lune et vers les étoiles, le cœur émerveillé devant tant de splendeur, et puis, prenant sa harpe, David se met à chanter. Et voici quelques-unes donc des paroles de sa chanson, de ce chant, si vous voulez. C'est le psaume 8, du chef de chœur sur la Gittite, psaume de David. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, toi qui te rends plus éclatant que le ciel. Par la bouche des enfants, des nourrissons, tu as fondé une force à cause de tes adversaires pour imposer silence à l'ennemi vindicatif. Quand je regarde ton ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as mises en place, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu t'occupes de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à un dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, moutons et chèvres, bœufs, tous ensemble, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Alors donc, David lève les yeux vers l'immensité de l'univers de Dieu, il sent sa propre petitesse. Et demande à Dieu, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu t'occupes de lui? Aujourd'hui, des psychologues nous disent qu'il y a deux périodes de crise majeure dans la vie. L'une vient à l'adolescence, l'autre lorsque nous atteignons l'âge mûr. Alors il y a évidemment d'autres périodes vitales où les modifications et changements sont importants pour l'être humain, notamment les premiers temps de l'existence où beaucoup de choses se mettent en place en nous, en réponse à notre environnement immédiat. Mais bon, partons sur le principe ce matin des deux crises identitaires de l'adolescence et de l'âge mûr. D'abord, au cours des premières années d'adolescence, notre corps passe par des changements considérables. Nous nous développons physiquement, la voix change, et notamment pour les garçons. Et une partie du processus de croissance consiste à réfléchir à notre identité. Qui sommes-nous vraiment et qu'allons-nous faire de notre vie? À ce moment-là, c'est l'adolescence, dit-on. Vous savez ce que c'est et vous l'avez vécu plus ou moins bien, plus ou moins consciemment. Et il y a plus ou moins longtemps. Les adultes, eux, font face à quelques problèmes quand ils atteignent l'âge mûr. Et nous appellerons ces difficultés la crise de la quarantaine, qui pourrait peut-être porter aussi le nom de crise de la cinquantaine ou de la soixantaine, peu importe. Vous savez, nos corps d'adultes passent par des changements aussi. Vous en êtes aperçu pour beaucoup récemment. Notre peau perd de son élasticité. Elle développe toutes sortes de rides que certains essaient de combler par tous les moyens. Les articulations deviennent moins mobiles, elles craquent. Nous avons besoin d'un quart d'heure pour nous dérouiller le matin. Et avec le temps, les caractères imprimés sur des pages, dans des livres, semblent devenir plus petits et moins lisibles. Et la lumière artificielle devient davantage nécessaire. Mais une maman est venue à la conclusion qu'il n'y avait pas beaucoup de différence entre certains de ses problèmes physiques et ceux de ses enfants, qui avaient eux-mêmes atteint l'âge de l'adolescence. Donc, prenez la vue, par exemple, ses deux enfants semblaient avoir un réel problème avec leur vue. Son fils regardait dans le réfrigérateur, rempli de nourriture, débordant de boissons et de victuailles, et pouvait dire sans problème, il n'y a rien à manger. Et sa fille ouvrait le placard de sa chambre plein de vêtements et se lamentait misérablement, mais j'ai rien à me mettre. Les psychologues, encore eux, nous disent que les anniversaires avec des zéros derrière sont souvent considérés comme une bénédiction, ou parfois aussi comme une malédiction. Par exemple, nous sommes impatients de fêter les anniversaires de 10, 20 et 30 ans. Ils sont des tremplins sur le chemin de la maturité. Le monde est à nous, la gloire va venir, certainement. Et les 70e, 80e et 90e anniversaires sont considérés comme des jalons vers un âge triomphant. Et nous devenons alors, comme par miracle, des personnes d'un âge respectable. Pourquoi c'est l'âge qui est respectable et pas la personne, ça je sais pas, mais c'est comme ça. Mais les 40e, 50e et 60e anniversaires, au milieu, ne sont pas considérés comme des jalons, mais comme des meules autour du cou, parce que c'est là qu'on commence à réaliser que la bataille entre la force de la jeunesse et les rigueurs de l'âge mûr tourne à notre désavantage. Vous connaissez peut-être Snoopy, pour certains d'entre vous. Vous voyez qui c'est? Voilà, c'est le chien dans les dessins animés Charlie Brown. Et une nuit, Snoopy est étendu au-dessus de sa niche en disant « Je peux entendre mon cœur battre. Je peux entendre mon estomac grogner. Je peux entendre mes os craquer. » Et puis il se plaint « Mon corps fait tellement de bruit que je ne peux pas dormir. » Je me sens comme ça parfois, et vous aussi probablement. Rassurez-moi. Alors, avant qu'il ne soit éternellement trop tard, il est important vraiment de trouver une réponse à cette question de David, pour être plus sérieux maintenant. Qu'est-ce que l'homme pour que Dieu se préoccupe tellement de nous? Qui sommes-nous? Et où allons-nous? Si vous demandez à quelques scientifiques, ils vous diront peut-être que nous ne sommes que des accidents de la nature, pas plus importants que le cafard qui traverse la cuisine. Mais ce genre de réponse n'est pas très satisfaisant quand même. D'autres donneront une valeur plus grande à la vie humaine. Et si nous regardons la parole de Dieu, la première réponse que nous pouvons découvrir à la question « Qui suis-je ?», c'est celle-ci. Tu es une personne de valeur qui est créée à l'image de Dieu. Dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, vous ne pourrez pas vous tromper, Dieu descend et prend la poussière de la terre, il en fait un corps humain, il souffle dans ses narines un souffle de vie. Et Adam prend vie. Dieu voit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, même s'il est entouré par la beauté du paradis autour de lui. Donc Dieu endort Adam, il en prend une côte et il forme une femme. Dieu la fait vivre et elle devient une partie de la vie de Adam. Pendant un certain temps, Adam et Ève vivent dans un paradis qui est créé par Dieu, marchant et parlant avec lui dans la fraîcheur du soir, profitant de la communion aussi avec le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'honorant fortement par leur vie. Et il nous est également dit qu'ils ont été créés à son image. Ils prennent des décisions et sont donc pleinement responsables de leurs choix. Ils peuvent aimer de la même manière que Dieu aime. Ils sont le miroir de Dieu lui-même, parce que Dieu les a créés à son image, il les a créés pour recevoir son amour. Donc, nous avons été créés par Dieu et nous sommes importants à ses yeux. C'est un point essentiel pour nous. Notre valeur ne dépend ni des autres, ni de nous-mêmes, mais de Dieu. Et pourtant, l'un ou l'autre pensera n'avoir que peu de valeur parmi nous. Qu'il soit vieux ou qu'il soit jeune, selon son histoire personnelle, selon les problèmes qu'il connaît ou ceux qu'il n'a pas pu encore résoudre. Mais dans le psaume 8, David a commencé à faire l'éloge de la majesté de Dieu. Et il a compris cette grande vérité. Dieu, tu m'as fait un tout petit peu plus bas, plus petit que toi-même, ce qui est quand même assez élevé sur l'échelle des choses. Tu m'as couronné de gloire et d'honneur, tu m'as fait régner sur toutes les œuvres de tes mains. Mais voilà, retour à Adam et Ève qui ont fait la chose même que Dieu leur avait demandé de ne pas faire. Ils ont cédé à la tentation de Satan et le monde tremble et gémit à cause de cela maintenant. Chacun de nous en subit les conséquences aujourd'hui. Quant à Adam et Ève, ils comprennent soudain qu'ils sont nus, ils ont honte d'être dans la présence de Dieu, alors ils se couvrent et ils essaient de se cacher de lui et découvrent en même temps que vous ne pouvez pas vous cacher de Dieu, c'est juste impossible. Et donc, expulsés du paradis, ils ont des enfants et leurs enfants apprennent à argumenter et à se battre tant et si bien que Caïn tue son frère. Pourquoi ? Parce que maintenant le péché est entré dans le monde et les a touchés. Nous avons été créés pour marcher avec Dieu. Nous avons été créés pour parler avec lui. Nous avons été créés pour être en communion avec Dieu. Mais le péché est venu créer un gouffre entre l'homme et Dieu. Ainsi donc l'histoire nous rappelle que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, mais que le péché est entré dans le monde et a brisé la relation privilégiée de l'homme avec son Dieu créateur. Récemment, et vous êtes peut-être encore sur le sujet maintenant, dans les groupes de maison, je vous ai invité à réfléchir à un point bien connu de l'histoire de David. Le fait qu'il a commis l'adultère avec Bathsheba et le meurtre par procuration, donc, du mari de Bathsheba. Au début de son histoire personnelle, nous l'avons vu aussi, personne dans la famille de David pense que ce petit David sera choisi par Dieu. Et tout le monde pense qu'il est prétentieux, même que David est prétentieux et intéressé quand il se présente pour combattre Goliath. David est le 8e frère de la famille et en même temps, il est la 5e roue du carrosse. Aujourd'hui, on constate que des enfants qui ne sont pas sécurisés dans leur famille adoptent plus tard et sans aucune raison objective, des comportements agressifs vis-à-vis des autres. Et même après que David a été choisi parmi tous ses frères, Samuel va loindre, il est venu pour ça, à la demande de Dieu, mais ça se passera très discrètement, pas à la vue du peuple, presque en catimini. Saül règne encore à cette époque-là, le roi Saül. Et plus tard encore, on notera qu'il aura, David aura donc de lui-même une image très négative face au roi Saül lorsqu'il dira « Qui suis-je pour être le gendre du roi ?» Et il dira encore « Qui es-tu venu poursuivre ?» en s'adressant à Saül, qui lui en voulait à mort, peut-on dire. « Qui es-tu venu poursuivre ? Un chien mort ? Une simple puce ?» Voilà ce que dit David. Et David finira par commettre l'adultère et le meurtre. Et si vous relisez cette histoire dans le deuxième livre de Samuel, chapitres 11 et 12, vous comprendrez que David se serait mis en colère contre quelqu'un qui aurait commis la même faute que lui, et qu'en prenant conscience que lui-même avait commis cette faute, ce dont il n'avait pas conscience du tout, donc, eh bien, il éprouva une immense tristesse lorsqu'il s'en rendit compte. Cette tristesse-là suscitera en lui la volonté de confesser sa faute et David avouera n'avoir pas péché seulement contre Bathsheba et son mari, mais aussi contre Dieu. C'est dans le psaume 51, bien sûr, que vous pourrez lire cette confession. Comme vous savez, la charge de roi ne sera pas enlevée à David, qui se soumet alors à la discipline de Dieu et qui s'en remet à sa grâce. Je passe les détails, mais ce qui est important de savoir, c'est que David a été attristé par sa propre faute. Il est normal de se sentir affligé par ses propres fautes. Aujourd'hui, malheureusement, des chrétiens conseilleraient à un fautif de rester toujours joyeux parce que nous sommes en Christ. En plus, c'est marqué dans la Bible, pensez donc. Au contraire, Dieu n'a pas reproché à David sa tristesse. Il a accepté sa repentance, il a accordé son pardon et il l'a relevé. Eh bien, cette tristesse de David, c'est aussi celle de Pierre, encore une fois, qui survient après le chant du coq quand il prend conscience de son triple reniement. La soudaineté de l'apparition de cette tristesse me rappelle encore celle de la colère qui conduit un disciple de Jésus a coupé l'oreille d'un serviteur du prêtre dans le jardin de Gethsémané. Elle me rappelle celle de la peur qui conduit les disciples à fuir ce jardin. Comment empêcher la tristesse de David, la colère de ses disciples et la peur de tous les disciples d'intervenir dans votre vie? Comment empêcher la tristesse, la colère et la peur d'intervenir dans votre vie? Eh bien, ces émotions apparaissent instantanément, avant même que vous vous en aperceviez, elles sont là. Vous ne pouvez rien contre, elles arrivent comme ça. Qu'est-ce que l'homme, alors, pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu t'occupes de lui? Jésus nous rend capables de refléter à nouveau l'image de Dieu, en d'autres termes, d'être le genre de personne que Dieu a toujours voulu que nous soyons. Malgré tout ce que nous pouvons connaître comme émotion que nous dirons négative. Mais l'apôtre Paul dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de toute puissance. Quand il dit vous avez tout pleinement en lui, le mot grec qui est traduit par pleinement est en fait un terme marin, un terme naval, et nous pourrions lire, vous êtes prêt pour le voyage de la vie en lui. Vous êtes prêt pour le voyage de la vie en lui. Est-ce que ce n'est pas une merveilleuse façon, finalement, de le dire? Vous êtes prêt pour le voyage de la vie dans le Christ. Et tout ce dont vous avez besoin pour le voyage, vous le trouverez en lui. Et c'est là que nous disons que le Christ est la réponse. Alors, quelle est votre question? De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Est-ce que vous regrettez d'être triste, en colère, ou d'avoir de la peur, des fois? Vous ne pouvez pas lutter contre l'apparition de telles émotions. Dieu vous a créé avec. Plutôt demandez-vous, que vais-je faire de toutes ces émotions? En quoi je vais les transformer? Comment vont-elles me permettre, à un moment, de rebondir dans ma vie? Quand David, par exemple, dit « Ah, si seulement tu faisais mourir le méchant !» dans le célèbre psaume 139, c'est une phrase qui est la conséquence de sa colère. Mais il ajoute, et vous lirez ça dans les derniers versets du psaume, « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Qu'est-ce que je vais faire de ma colère? Je vais tout soumettre à Dieu pour lui demander de la transformer afin que je sois changé véritablement dans ma vie et profondément dans ma vie. Est-ce que vous êtes actuellement assailli par les arguments de ceux qui cherchent à mettre le doute dans votre esprit? Tournez-vous vers Jésus parce qu'il est prêt à vous aider. Est-ce que vous avez tendance à vous dévaloriser, à vous placer plus bas que terre? Alors n'oubliez pas, à ce moment-là, que vous avez été créé à l'image de Dieu. Et ce n'est pas rien. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu t'occupes de lui? Qui suis-je? Qui êtes-vous? De toutes les étiquettes que je me donne, celle qui compte le plus, c'est celle-ci. J'appartiens au Seigneur, je suis chrétien, c'est-à-dire je suis né de nouveau en Jésus-Christ, je suis né d'eau et d'esprit. Je suis une création nouvelle. L'être ancien a disparu, un être nouveau est arrivé, et tout cela vient de Dieu. Amen. Amen. Nous prions le Seigneur. Seigneur Dieu, notre Père, nous voulons vraiment nous adresser à toi ce matin, parce que si nous sommes tous rassemblés ici, si nous sommes tous ensemble, nous sommes des êtres individuels, uniques, et nous avons tous de la valeur à tes propres yeux. Tu nous as créés à ton image, Seigneur, mais comme le péché est entré dans le monde par la faute d'un seul, aujourd'hui, cette image qui est la nôtre est un peu ternie, même à nos propres yeux. Mais nous nous adressons à toi, Seigneur, pour implorer ton pardon pour nos fautes et pour te demander que tu nous rétablisses selon ton image. Tu n'as pas éloigné de nous ton amour. Tu nous offres toujours cette possibilité de revenir à toi chaque jour de notre vie. Et nous voulons te faire confiance, Seigneur. Nous voulons savoir où nous allons. Nous voulons savoir qui nous sommes. Mais en fait, nous avons déjà la réponse dans la parole. Tu nous le dis. Nous t'appartenons. Et notre destin est scellé dans les cieux par ta grâce. Nous voulons te remercier, Seigneur. Et te demander ou implorer ton aide, Seigneur. Là et quand nous en avons besoin. Si nous sommes dans la faute, nous te prions, Seigneur, pour que nous prenions conscience de cette faute et que nous puissions revenir à toi et te rendre gloire à nouveau dans notre vie. Si nous sommes dans la crainte ou le dénuement, si nous avons ces sentiments, si nous vivons ces émotions que nous estimons être négatives, néfastes pour notre avenir, Seigneur, comme la colère, la peur ou la tristesse, eh bien nous te remettons toutes choses pour que nous sachions transformer toutes ces émotions en quelque chose d'autre, de plus grand, qui nous conduira à changer peut-être quelque chose dans notre vie et à te rendre gloire à nouveau. Merci, Seigneur, parce que tu nous le permets et parce que ton projet est véritablement de nous relever afin que nous entrions dans l'éternité avec toi et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors ce matin, nous allons avoir un témoignage et je vais demander à Hélène de bien vouloir s'approcher, de prendre les marches. Ça va être un petit peu compliqué, je pense, mais on va y arriver.